La majorité accusée de verrouiller la parole des députés à l'Assemblée. Par Manuel Jardineau. Chronique. Et 2. Pour la seconde fois, l'ensemble des groupes d'opposition, à l'excepté du petit groupe Liberté et Territoires, ont quitté l'hémicycle de l'Assemblée nationale mardi 4 juin sans participer au scrutin du vote solennel sur le nouveau règlement de la Chambre basse. Finalement adopté par 347 voix contre 8, le débat a été le théâtre d'âpres confrontations donnant à voir des groupes d'opposition bataillant pied à pied contre une République en marche toujours aussi sûre de son fait. L'enjeu n'est pas anodin. Le nouveau règlement de l'Assemblée, même s'il recèle nombre de mesures techniques et parfois obscures, donne à voir ce qu'est une répartition des rôles entre gouvernement et députés, entre majorité et opposition. Ce toilettage, entamé dès le début de la législature à travers des groupes de travail et accéléré sous la présidence de Richard Ferrand au rythme d'une réunion par mois pendant 6 mois avec les chefs de groupe, n'aura finalement pas fait consensus. Mieux ou pire, il a mis au jour l'incapacité d'une partie de LREM à s'inscrire dans une démarche d'ouverture, pourtant tant vantée depuis la création du mouvement. Tout avait commencé dans la nuit du 28 au 29 mai. Est alors discuté l'article 8 qui fait polémique. Il s'agit d'inscrire dans le marbre que chaque orateur, lors de la discussion générale d'une loi, ne pourra parler que 5 minutes. Bronca sur les bancs, rappel au règlement pour ralentir le vote. Hormis ceux appartenant à la majorité, tous les élus se lèvent et partent devant le refus du président de l'Assemblée, Richard Ferrand, de bouger sur la mesure. Le lendemain, malgré les discussions de coulisses, il refuse de revenir siéger, laissant le vote aux seules mains d'une majorité qui exerce alors un simulacre de discussion pour la forme. Lors de l'explication de vote, une semaine plus tard, chaque groupe d'opposition assume son choix. Pour Pierre Dharréville, du Parti communiste, on assimile la discussion générale à du bavardage. On veut réduire les discussions à des mesures techniques. Pour lui, c'est la culture managériale de l'entreprise appliquée au Parlement. Mathilde Panot de la France Insoumise ira même, dans un geste destiné à tourner sur les réseaux sociaux, à simuler un bâillon à la tribune pour dénoncer que « tout est pour le président, rien pour l'Assemblée », dit-elle à Mediapart. Du côté du Parti Socialiste, David Habib s'insurge contre l'objectif de « verrouiller la parole des députés ». Il fait ainsi référence à 2 autres dispositions nouvelles. La désignation d'un interlocuteur unique dans un groupe pour s'exprimer sur un article et l'impossibilité désormais pour plusieurs députés de défendre des amendements identiques. 2 autres mesures qui restreignent le temps de parole des élus. Il insiste. Si la loi est mal faite, bavarde, discutée dans de mauvaises conditions, c'est d'abord le fait du gouvernement. À sa suite, Jean-Christophe Lagarde, pour l'UDI, a quasiment le sentiment d'avoir été floué quand Philippe Gosselin, pour Les Républicains, dénonce l'attitude de Richard Ferrand, proche d'entre les proches d'Emmanuel Macron, et un texte instaurant une forme d'usinage, de taylorisme. Le député de la Manche enchaîne. La loi est un produit artisanal, poli à la main. Elle ne vient pas d'un moule d'où sortiraient des textes à la chaîne. Pour la majorité, il s'agit là d'une mise en scène grossière, surjouer l'indignation et boycotter le vote pour cacher une faiblesse politique après les résultats aux européennes. De fait, l'Assemblée demeure ce lieu où, même s'il est clos, s'infiltrent les événements politiques, se jouent les rapports de force. Après les déconvenues du scrutin européen, républicains, insoumis, communistes et socialistes avaient cette nécessité de démontrer leur capacité à s'opposer à LREM, qui joue cette carte de l'hégémonie et de l'absorption des vaincus. Bruno Questel, de La République en marche, déplore « Les oppositions étaient dans une logique de blocage ». C'est de la politique à 2 balles. Le syndicat des opposants désavoué le 26 mai et en 2017 et qui ne savent pas se remettre en cause, estime-t-il auprès de Mediapart dans la salle des 4 colonnes. Selon lui, tout avait été mis en œuvre pour aboutir à un compromis que les oppositions ont finalement décidé de dynamiter pour des raisons de basse politique. Il évoque aussi une coalition de circonstances, comme celle qui a abouti au lancement du référendum d'initiative partagée sur la privatisation d'Aéroports de Paris. L'ex-PS met en avant d'autres nouveautés en faveur des oppositions. Plus de temps de parole lors des questions au gouvernement, avec une possibilité de réplique au ministre, la capacité d'être rapporteur d'une mission d'enquête, l'accès à la première vice-présidence de l'Assemblée. Le rapporteur du texte, le député MoDem Sylvain Wasserman, défend lui aussi, sur un ton plus doux et moins polémique, les avancées de ce nouveau règlement qu'il a contribué à construire. « Il y a des avancées démocratiques majeures pour les oppositions. J'apprécierais que cela soit dit », plaidait-il auprès de Mediapart, quelques heures avant le vote final, reprenant les arguments de son collègue de LREM. Il insiste également sur d'autres aspects passés sous silence. Plus de transparence sur les lobbies, comme l'obligation de déclarer toute invitation à un voyage ou l'acceptation de dons ou cadeaux, prise en compte des recommandations de la déontologie, droit de pétition amélioré pour saisir les députés, mise en place d'un cadre pour lutter contre le harcèlement, notamment sexuel, au sein de l'Assemblée. Sur ce point, la bataille a été rude, aucun dispositif n'étant prévu initialement dans le texte. À force d'amendements, trop détaillés selon le rapporteur, déposés en commission, un cadre très général a néanmoins été voté pour instaurer un dispositif de lutte contre le harcèlement et reconnaître que notre institution a une responsabilité. Le minimum syndical, alors que le collectif « Chères collaboratrices » assure qu'à l'Assemblée, une femme sur deux dit avoir été victime de blagues sexistes ou sexuelles, voire à cet égard le machoscope de Mediapart, une sur trois d'injures sexistes et une sur cinq d'agressions sexuelles sur son lieu de travail. Le collectif préconisait notamment une cellule d'écoute et le gel de la clause de loyauté. Pour le reste, Sylvain Wasserman dénonce la mauvaise foi des oppositions qui, selon lui, ont surjoué le conflit alors qu'un accord avait été trouvé. Il l'assure, nous avions un point d'atterrissage qui n'a pas recueilli l'adhésion. Il était prêt à revenir sur la question de l'orateur unique et à trouver une solution sur celle des amendements uniques. Rien n'y a fait. La crise était déjà en place. Dans l'entourage de Richard Ferrand, c'est la même dénonciation d'une manœuvre politicienne. Il ne pouvait pas se retrouver d'accord avec le président de l'Assemblée. L'accent est mis sur la simplification, l'efficacité, la rationalisation, un langage très « start-up nation » dénoncé au fil des discours par les opposants. Reste que, au-delà de cette image, à nouveau extrêmement lourde de sens pour la majorité, avec ses bancs désertés, cette séquence augure mal de la prochaine, celle de la discussion sur la réforme constitutionnelle. Chacun a encore en mémoire la précédente, en juillet 2018, et en pleine affaire Benalla, où La République En Marche et l'exécutif ont été contraints de baisser pavillon et de stopper l'examen du texte. Le nouveau projet qui se profile, dévoilé par le journal Le Monde, est encore loin de faire consensus, en particulier avec le Sénat, sur la baisse de 25% du nombre de parlementaires. De timides avancées ont été concédées sur le référendum d'initiative partagée et sur la dose de proportionnelle. Les oppositions ont dénoncé l'initiative de voter un nouveau règlement avant de discuter de la réforme à venir, dont l'adoption est bien loin d'être assurée. Pour David Habib, il s'agit effectivement de contraindre la parole avant de débattre de l'évolution de la Constitution. Sylvain Wasserman se défend. « Si on avait pu faire la réforme sur le règlement en même temps, on l'aurait fait. » Alors que Bruno Questel assume sans réserve le décalage car « cela n'a rien à voir avec la réforme constitutionnelle. » Une énième désertion des bancs durant la future discussion à l'Assemblée incrusterait l'image d'un groupe majoritaire toujours plus intransigeant. Mediapart.